Bonsoir, verdict sans appel des douanes françaises pour qu'il s'agit de la plus grosse dégradation depuis 2011. Oui, rien n'y fait, c'est une constante, hein. Le déficit du commerce extérieur continue de s'aggraver en 2017. Oui, ça ne s'arrête pas. Alors on verra pourquoi. Bon, tout n'est pas mauvais pour autant, on va détailler ça. Bon, alors je veux bien comprendre qu'il y a eu des problèmes météo qui ont pu peser sur les exportations de blé. Bon, très bien, mais est-ce qu'il n'y a pas des raisons plus sérieuse, hein, plus profonde, hein. Pourquoi la France creuse-t-elle l'écart ainsi avec l'Allemagne qui affiche, elle, un excédent de 250 milliards d'euros? Alors, le commerce extérieur, est-ce le point faible? Est-ce le mal français? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Oui, nos décodeurs de l'écho, les meilleurs, hein, acteurs, experts, analystes, Alain Binteja, qui est président des conseillers du commerce extérieur de la France. Julien Marcy, chef économiste de l'assureur Crédit, COFAS. Emmanuel Le Chypre, chef économiste éditorial.
Mais oui, allons-y,
chef économiste de BFM Business.
Allons-y, de BFM Business.
Valérie Attia est avec nous, directrice générale d'Elysphère, hein, qui travaille avec les acteurs du financement, de l'économie, les directions financières, commerciales, qui permet aux clients, quelque part, de maîtriser leur risque. Et puis, Philippe Dornano, qui est le président de Sisley, mais co-président du METI, le mouvement des entreprises de taille intermédiaire, hein, qui savent exporter, justement, elles ont des recettes d'optimisme, celles qu'on met en avant régulièrement dans le défi ETI, qui reprend donc le week-end prochain sur BFM Business, à la télé et à la radio. Moins 62 milliards, oui, c'est le chiffre, hein, de 2017. Hein, pour le gouvernement, eh bien, ces chiffres montrent l'ampleur des défis à relever. Il faut se retrousser les manches, hein, disait le gouvernement, pour redonner de l'allant à l'économie française. Le Premier ministre, d'ailleurs, il annonce un plan pour le 23 février. Édouard Philippe.
L'accès à l'export, l'accès au marché extérieur, pour les très grandes entreprises, c'est pas un problème, ça peut toujours être difficile, mais c'est pas un problème. Pour les toutes petites, ça peut être redoutablement compliqué. Parce que on est angoissé, parce que les dépenses qu'on y consacre peuvent être lourdes. Et notre objectif, c'est de faire beaucoup mieux. Alors, pour faire beaucoup mieux en commerce extérieur, il y a deux choses. Il faut d'abord qu'on soit plus compétitif. L'ensemble des mesures que je viens d'exposer visent à cela. Et puis, il faut qu'on organise autrement notre système d'accompagnement des entreprises à l'étranger, qui ne marche pas bien. Il faut le constater. Si les chiffres étaient bons, on ne toucherait à rien. Ils sont mauvais. Il faut changer.
Voilà, le Premier ministre était ce matin au Salon des entrepreneurs. Il a planté le décor, justement. On va revenir sur un certain nombre des points sur lesquels il a insisté tout à l'heure, Édouard Philippe. Emmanuel Le Chypre, 2017, hein, je le disais, donc 62 milliards de déficit, hein, forte croissance des importations, forte croissance aussi des exportations, voilà, ça repart. Comment est-ce qu'on lit ces chiffres? Comment est-ce qu'on les interprète?
Alors, déjà, sur la grosse soixantaine de milliards de déficit annuel, ça fait 15 milliards de plus, une grosse quinzaine de milliards de plus que l'année précédente.
Tout juste, ouais.
Si vous regardez, il y a la moitié de cette dégradation qui s'explique par l'augmentation de la facture énergétique, oui, avec notamment la hausse des prix du pétrole, et vous avez l'autre moitié qui s'explique effectivement par l'augmentation de la demande intérieure. Et la demande intérieure, c'est quoi? C'est les produits de consommation, c'est les machines qu'achètent les entreprises. Et ça, c'est vraiment une spécificité des dernières années, mais qui touche tous les pays du monde, c'est que votre dépendance, le lien entre votre demande intérieure et vos importations est de plus en plus fort, pour une raison simple, c'est que aujourd'hui, les lieux où vous produisez ne sont plus proches des lieux où vous consommez. Hein, et donc tout le monde achète des produits à l'étranger liés à l'éclatement des processus de production, ce qui fait que aujourd'hui, par exemple, les 25 produits les plus achetés par les Français, que vous preniez les produits d'ameublement, le textile habillement, les produits informatiques, etc., machines à laver, équipements, etc., ils sont quasiment plus fabriqués en France. Donc dès que vous avez de la demande,
un
de
peu
la part
de
reprise
économique, un peu de consommation,
forcément, on vous avez des importations qui redémarrent. Est-ce que cette dégradation en 2017 s'explique par une dégradation supplémentaire de notre compétitivité? Ma réponse est non.
Bon.
Mais on va en reparler.
On va en reparler.
Le teasing, je vous dis que non, ça n'est pas lié à la dégradation de notre compétitivité. Et que derrière ça, alors il y a d'autres choses inquiétantes, mais qui sont pas forcément celles qu'on croit. Si avec ça, vous restez pas pour écouter toute l'émission, je ne sais pas quoi faire.
Merci, voilà, vous êtes là à écouter nos décodeurs de l'écho, donc tous les soirs. Oui, c'est vrai, vous avez rappelé des chiffres, hein, 48 milliards de déficit l'an dernier, 45 milliards en 2015, 74 milliards en 2011, et puis là, 62 milliards. C'est, voilà, Alain Bataillac, j'ai l'impression que c'est le seul voyant rouge de la croissance française. Comment ça s'explique, ces déficits à répétition à vos yeux, vous qui êtes le président des conseillers du commerce extérieur de la France?
Je crois qu'il y a des causes profondes. Hein. Effectivement, comme on le disait, c'est certainement un déficit de compétitivité de fond de l'économie française, car sinon il n'y a pas de raison que ces chiffres soient aussi mauvais. Il faut aussi noter d'ailleurs que c'est pas une fatalité. On a l'impression qu'on est toujours en déficit, ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu des périodes, il y a eu une dizaine d'années dans les années 90 où on a été en excédent, donc on peut y arriver.
25 ans, tu sais.
Ça n'est pas une malédiction, mais ça fait longtemps. Et donc je crois que ça traduit un déficit de compétitivité. Alors certes, il y a des efforts qui se font depuis quelques années pour améliorer la situation. Je crois que ça va dans la bonne direction. Mais clairement, c'est des choses qui ne produisent leurs effets que dans le très long terme. Et donc, on ne peut pas espérer d'avoir des résultats à court terme. Il est évident aussi que le relatif dynamisme de l'économie française en 2017 n'a pas joué dans le bon sens du point de vue du commerce extérieur. C'est le paradoxe, mais
La croissance est là, la consommation repart, et du coup, on est obligé d'acheter ailleurs.
Et puis, je crois que le phénomène essentiel, pour moi, vraiment la raison essentielle, est à mettre en relation avec l'érosion de la base industrielle française. Quand on regarde bien les éléments, bon, l'énergie, que les importations d'énergie augmentent, pas de problème, mais que le solde manufacturier se dégrade, malheureusement, ça ne fait que traduire le fait que depuis une vingtaine d'années, notre appareil industriel s'est fortement dégradé, et donc ça se traduit directement dans les chiffres, et c'est la grosse différence par rapport à l'Allemagne, évidemment.
Tout juste, oui, on verra justement le déficit manufacturier qui a atteint un nouveau record à plus de 40 milliards d'euros, puisque les chefs d'entreprise, en effet, ont repris les achats de biens intermédiaires. Philippe Dornano, à la tête de Sisley, co-président du métier, et on sait que les entreprises de taille intermédiaire, il y a une grosse base industrielle, justement. Hein. Ça veut dire quoi? On n'est pas capable de suivre et de fournir les produits dont on a besoin, c'est ça justement? C'est ça qui manque en France?
Oui, je crois qu'il y a vraiment... D'abord, il faut noter une première chose, c'est que en ce qui concerne la demande, tous les pays européens sont dans la même situation, et pourtant les Allemands sont justement exportateurs. Donc notre cas est particulier. Et le Premier ministre l'a dit, il s'est clairement lié à la compétitivité, et notamment à tout ce qui concerne le Made in France, parce que les deux gros écarts de compétitivité, c'est quasiment 50% de plus de taxes sur les entreprises françaises par rapport à la moyenne européenne quand on les cumule. Et quand on regarde...
C'est-à-dire
50%, les entreprises françaises sont taxées 50% de plus que la moyenne européenne.
D'accord.
Donc c'est énorme. Il y avait encore une étude de Pricewaterhouse sur ce sujet, je crois, qui a été publiée cette semaine. Et quand on regarde les deux raisons, quels sont les deux écarts principaux, c'est le coût du travail et c'est les taxes de production. C'est-à-dire tout ce qui concerne l'emploi et la fabrication en France. Ça explique la dégradation constante de l'emploi industriel. L'emploi industriel a diminué dans tous les pays. Il y a eu des externalisations, mais il est le double en Allemagne de la France. Donc on a véritablement un problème que pour le moment on n'a pas été capable d'adresser.
Et on verra justement dans quelle direction travaille Valérie Attia, directrice générale d'Elysfer. Avant qu'on essaie de trouver les remèdes, votre regard justement sur ces déficits chroniques, même si vous nous le rappeliez donc tout à l'heure, Alain Bataillac, on a été dans le vert à un moment. Un moment, oui. 20 ans, quoi, maintenant. Hein.
Oui, voilà, il y a 20
ans. Voilà, c'est ça, il y a 20 ans.
Effectivement, oui.
Voilà, c'est 20 ans, c'est une génération.
C'était il y a 20 ans, c'était il y a 20 ans. En fait, on a un regard chez Elysfer sur l'ensemble du tissu industriel et du tissu des entreprises en France. Et on voit effectivement qu'il y a beaucoup moins, mais ça, je n'apprendrai rien à personne en disant, il y a beaucoup moins d'entreprises industrielles, il y a beaucoup moins de PME, il y a beaucoup moins, vous parliez tout à l'heure de l'Allemagne, on a un tissu industriel qui n'a absolument rien à voir avec l'Allemagne. Alors, notre métier chez Elysfer, c'est d'aider les entreprises qui veulent exporter, qui peuvent exporter et qui ont envie d'exporter, de le faire avec sérénité. Parce qu'effectivement, je pense qu'il y a parfois, dans nos entreprises en France, un manque de savoir-faire sur comment on exporte.
Un manque d'envie peut-être aussi.
Un manque d'envie. Ouais. Alors, je ne pense pas que l'envie ne soit pas là. Je pense simplement que certains chefs d'entreprise ne savent pas comment s'y prendre. Ils ont tous les jours beaucoup de choses à faire. Comment j'exporte? Vers qui je me tourne? À qui je peux faire confiance? Quels sont les moyens que je vais avoir pour m'assurer que ce que je fais à l'export va être viable? Ce sont des sujets assez simples, au fond, qu'ils se posent.
Et
nous essayons, en tout cas chez Elysfer, de les aider pour qu'ils exportent.
Philippe Dornano nous expliquera justement ce qui fait la force des ETI, des ETI qui constituent quand même un gros noyau d'entreprises exportatrices. Julien Marcy, chef économiste de Coface, un mot quand même sur les exportations quand même, parce que Bon, tout n'est pas acheté hein, dans les chiffres, les mauvais chiffres annoncés par les douanes ce matin, avec ce déficit qui se creuse, 62 milliards. Les exportations, elles ont augmenté de presque 5%. Progression bien meilleure qu'en 2016. Notre export réalise son meilleur taux de croissance depuis 5-6 ans, hein, c'est vrai ?
Oui, tout à fait. Bon, c'est pas une surprise. C'est lié à la reprise de la croissance mondiale. Donc, on a toujours un certain nombre de secteurs qui bénéficient d'excédents commerciaux, comme la chimie, en incluant la cosmétique, la pharmacie, l'aéronautique, même si ça contribue moins, et puis l'agroalimentaire.
Mais au-delà, la mode féminine aussi, avec des exportations au plus haut, presque 5% de plus. Voilà, j'ai vu ça.
Mais au-delà de ces quelques exceptions, c'est vrai que depuis 1999, donc la dernière fois où la France a enregistré un excédent commercial, en fait, ce qu'on a observé, c'est vraiment une dégradation en deux temps. C'est-à-dire, il y a eu une période 2000-2011 où là, les causes de ce déficit ont été assez bien identifiées. Hein. Elles sont au nombre de trois. C'est un, la facture énergétique, parce que les prix du pétrole avaient beaucoup augmenté. Deux, Emmanuel Le Chip le disait, la montée en puissance des pays émergents avec l'entrée de la Chine dans l'OMC, etc. Et puis trois, un gros déficit sur des biens manufacturés avec des pays proches. Et donc là-dessus, forcément, la cause, c'est la compétitivité prix et le coût du travail. Maintenant, sur la deuxième phase depuis 2015, parce qu'il y a eu une accalmie entre les deux, là, le fait est que quand on regarde la dégradation sur ces trois années, les causes, à mon avis, sont un peu différentes. C'est-à-dire que notre solde s'est très peu dégradé, par exemple, face à la Chine. Il s'est aussi très peu dégradé en ce qui concerne le pétrole, sauf en 2017, mais sur la période
de
3 ans.
On est passé de 30 à 60 dollars quand même. Voilà,
oui. Et en revanche, le paradoxe, c'est qu'il a continué de se dégrader face aux pays qui nous sont proches, notamment en Europe, sur des biens manufacturés.
Et l'Allemagne notamment.
Alors que notre compétitivité coût, elle, s'est nettement améliorée grâce au CICE. Ce qu'on voit quand même, c'est qu'il y a un écart entre cette compétitivité coût et la compétitivité prix, ce qui veut dire que les entreprises on en profitait pour restaurer leurs marges, mais plutôt que d'essayer de gagner des parts de marché à l'export en baissant leur prix à l'export.
Alors, Philippe Dornano et Emmanuel Le Chypre.
Il faut rappeler qu'en plus, c'est 60% de nos échanges, l'Europe. Je crois que l'Europe, c'est vraiment le marqueur de comparaison pour nous. Quand on parle de compétitivité, le sujet, c'est d'être en ligne avec la compétitivité européenne.
Emmanuel.
Mais je crois qu'il faut bien regarder où sont nos vraies faiblesses. C'est-à-dire que quand on regarde, finalement, nos échanges par région... est-ce que on est défavorisé par la structure géographique de nos exportations? On s'aperçoit pas tant que ça. Est-ce qu'on est défavorisé par les secteurs sur lesquels on est performant ou pas? La réponse est pas tant que ça. Je vous renvoie à tous les travaux du Conseil d'analyse économique, France Stratégie, etc. Le vrai sujet, et pour le coup, c'est pour ça que je pense que c'est même pas un problème uniquement industriel, c'est tout simplement notre incapacité à avoir un nombre suffisant d'ETI qui soit performant. Parce que quand vous prenez une ETI de taille comparable avec une ETI espagnole, une ETI italienne, une ETI allemande, l'ETI française, elle n'a pas à rougir en termes de compétitivité. Or, comme par hasard, quand vous regardez le nombre d'entreprises exportatrices, vous voyez quoi? Vous voyez qu'on a deux fois moins d'entreprises exportatrices que l'Italie et trois fois moins que l'Allemagne.
Je vais donner juste 125 000 entreprises exportatrices en France, l'Italie 250 000, l'Allemagne 400 000.
Or, comme par hasard, on a deux fois moins d'ETI que l'Italie et on a trois fois moins d'ETI que l'Allemagne. Je vous donne juste un petit calcul.
À peu près 5300 ETI en France.
Je vous donne juste un petit calcul. Les ETI, c'est 30% de nos 450 milliards d'exportations.
Ouais.
Imaginez qu'on en ait deux fois plus que ce qu'on a aujourd'hui pour nous mettre au niveau de l'Italie. En solde commercial, ça vous fait 30 milliards d'euros de solde de plus que ce qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est ce secteur, cette idée, c'est comment amener des PME à devenir des ETI. Et je pense que si on adresse en priorité ce problème-là, plutôt que de se focaliser un peu comme le fait le grand patronat industriel, j'ai envie de dire, tous les gens les France Industrie, etc., qui eux ont une vision très coût du travail, il faut baisser les charges jusqu'à 4,5 SMIC, etc. Je dis pas qu'il faut pas le faire, mais ce sujet du nombre d'ETI exportatrices et d'ETI totales en France, vous faites ça, vous avez deux fois plus d'ETI en France, vous résolvez tous nos problèmes. Nos problèmes d'emploi, nos problèmes de déficit public, nos problèmes de commerce extérieur, tous nos problèmes.
Voilà, et d'où le défi ETI, chaque week-end, vous avec le METI, avec la Banque Palatine, Philippe Dornano.
Oui, je voudrais aussi mettre en perspective sur une période de temps. En 1980, on avait autant d'ETI que les Allemands.
Oui. Oui.
C'est-à-dire qu'on a perdu, et donc c'est une question aussi qu'on doit se poser, on a perdu entre 1980 et en réalité entre les années 85 et 2000 un très grand nombre de nos ETI. Et là, le problème qui a été adressé, que notre organisation de métier avait adressé, c'est le blocage des transmissions d'entreprises en France, qui a été dramatique sur une période d'à peu près 20 ans, et qui a poussé à la vente, souvent à des groupes étrangers, un très grand nombre de ces entreprises, qui a généré des pertes de substances industrielles, qu'on a repris en considération à partir des années 2000 avec les fameux pactes Dutreil qui repermettaient des transmissions d'entreprises. Aujourd'hui, la transmission en France, c'est encore 3 fois le coût d'une transmission en Europe. Ça impacte les ETI de manière forte, ça impacte leur développement, ça provoque des ventes d'entreprises et ça explique ce faible stock.
Allez voir le rapport de l'Institut Montaigne qui a commandé le métier justement, et on en parlera dans le défi ETI Arnaud Vessier samedi et dimanche.
Un point historique effectivement. Tout le monde s'est félicité de la politique de désinflation compétitive qui a été menée à partir du milieu des années 80 pour redresser la compétitivité française. Il faut pas oublier que cette politique, elle a eu un inconvénient, c'est qu'elle a été très violente et qu'elle a tué beaucoup de PME, même si elle a redressé globalement la compétitivité française. Le malade est sorti guéri, mais quand même très affaibli, fatigué, très affaibli.
Alain Batajac.
Oui, tout à fait. Je pense que quand on compare la France et l'Allemagne, il y a le nombre de TI, il y a la taille de l'industrie. L'industrie allemande, c'est 3 fois la taille de l'industrie française. Donc, il ne faut pas s'étonner aussi après des chiffres du commerce extérieur. Et quand on regarde aussi l'appareil exportateur français, on voit qu'il y a une très forte concentration, puisque les 100 premières entreprises représentent 40% des exportations et les 1000 premières 70%.
Exact.
Et les grandes entreprises en général. Et donc la place des ETI, environ 30%, effectivement, elle devrait pouvoir être développée davantage parce que malheureusement, même s'il faut augmenter le nombre d'entreprises, le nombre de PME exportatrices, c'est pas ça qui va avoir un effet à court terme fort sur le commerce extérieur.
70% des exportations sont aux mains seulement de 1% des entreprises seulement.
De 1000 entreprises. Et quand on dit il faut doubler le nombre d'exportateurs en France, c'est très bien, effectivement.
Oui, mais bon.
Mais il ne faut pas attendre de cette mesure-là un effet à court terme, parce qu'aujourd'hui, les PME représentent 13% des exportations françaises. 13% simplement. Donc, ce qui est important, effectivement, je rejoins tout à fait ce qui a été dit à l'instant, c'est d'essayer de faire grossir les entreprises, de développer les ETI au maximum, parce qu'il faut quand même une taille minimum suffisante, souvent, pas toujours, mais souvent pour aller à l'export.
Mais est-ce qu'on n'est pas justement en train d'essayer de combler le retard, d'investir dans les machines-outils? Bon, ça va prendre du temps. Quelque part, est-ce que nos importations d'aujourd'hui ne seront pas nos exportations de demain, Alain Batajac?
On peut l'espérer. On a vu une forte montée des importations d'équipements. C'est plutôt bon signe.
Oui,
ça prouve effectivement la machine. D'ailleurs, le bon signe macroéconomique, je suis pas un économiste, mais c'est quand même l'investissement reprend et c'est quand même quelque chose qui est assez nouveau. Donc tout cela, plus les mesures qui ont été prises par le dernier gouvernement et aussi par le gouvernement actuel pour améliorer la compétitivité, on peut penser quand même que tout cela, on espère quand même que tout cela va jouer.
À un moment,
jouer,
ça va payer.
Ouais. Va jouer, mais c'est vrai que les délais sont longs et qu'il n'y a pas d'effet immédiat.
Oui, juste un mot là à l'économiste Julien Marcy de COFAS. De quelle manière le commerce extérieur, il impacte la croissance? Ça pèse combien dans la croissance?
En moyenne, au cours des 4 dernières années, le commerce extérieur a amputé la croissance française de 0,3 points par an.
0,3 points par an.
Donc c'est le troisième pire score au sein de la zone euro.
Et c'est le seul voyant rouge dans la croissance française.
En ce moment, oui. Et pour rebondir sur ce que disait M. Bentejac il y a quelques instants, finalement, le commerce extérieur, ça reflète l'équilibre entre l'offre et la demande d'une économie. Et ce qui est frappant, notamment quand on regarde les dernières enquêtes conjoncturelles de l'INSEE, c'est qu'on est passé très vite chez les entreprises françaises d'une situation où elles se plaignaient d'une insuffisance de la demande à une situation où elles se plaignent d'une insuffisance d'offres. Et donc ça, c'est lié à un sous-investissement pendant pas mal d'années. Donc le point positif, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, l'investissement repart, mais c'est vrai qu'il repart très tardivement. Et donc, quand les entreprises ne peuvent pas répondre à la demande, elles doivent importer.
Valérie Attia.
C'est exact. Je pense que notre tissu industriel qui a souffert pendant des années, effectivement, des problématiques que vous citiez tout à l'heure, doit se reconstituer, doit grossir. Et la question, c'est l'œuf ou la poule. C'est-à-dire que pour faire grossir une entreprise petite, pour qu'elle devienne une ETI, il faut qu'elle cherche des marchés à l'export. C'est aussi une façon de croître.
Oui.
On voit bien que la croissance de la demande en France sur un certain nombre de produits manufacturiers, notamment, ne viendra pas, en fait, par ce qu'il sera servi par les entreprises françaises, puisqu'on va toujours continuer à importer des produits manufacturiers qui sont probablement... Voilà. Donc, de toute façon, nos entreprises doivent sortir pour grandir. Je ne pense pas qu'elles puissent d'abord grandir en restant en France, pour après être suffisamment grosses pour aller à l'export. Il faut faire les deux me semble-t-il, parallèlement.
Emmanuel Le Chypre.
Je crois que sur la compétitivité, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, Julien a bien séquencé les périodes de dégradation de la compétitivité, l'effondrement 99-2010, pour plein de raisons. Et objectivement, sur les dernières années, il n'y a plus de dégradation. Non, c'est pour ça que je disais qu'il n'y a pas de dégradation supplémentaire. Non, ça ne veut pas dire que notre compétitivité est bonne. Mais elle arrête de se dégrader. Si vous prenez le nombre d'entreprises exportatrices, par exemple, on était à 116 000 en 2011, on est à 124 000. Nos parts de marché dans le commerce mondial arrêtent de diminuer. Donc,
on est quand même.
Ça ne veut pas dire que notre compétitivité est
c'est
bonne.
C'est 3%, la part de la France dans le commerce mondial. Ça ne baisse versus 5,5% il y a quelques années.
Si vous prenez les coûts salariaux, 2000, la tendance des dernières années est aussi favorable. Et le solde industriel, si vous excluez l'aéronautique, qui est quand même un secteur qui fait des fluctuations très fortes, on est stable depuis 2015. Moi, il y a un secteur qui m'inquiète beaucoup plus et dont on parle jamais, parce qu'on est obnubilé par l'industrie, c'est la dégradation de la compétitivité du secteur des services. Oui, parce que n'oubliez jamais que notre balance commerciale qui ne concerne que les marchandises, il y a une balance plus importante qui est ce qu'on appelle la balance courante, dans laquelle on inclut les services et les revenus financiers. Or, jusqu'à ces dernières années, l'excédent des services comblait à peu près 30%.
Là, ça va mieux. En 2017,
on est passé d'un excédent qui était autour de 20 milliards à un excédent quasiment nul.
Là, on a vu l'excédent augmenter l'an dernier à 5,4 milliards grâce notamment au tourisme.
Il est repassé à 5 milliards.
Grâce au retour de l'attractivité du tourisme après les attentats qui avaient fait déserter les touristes l'année précédente.
Oui, mais il n'y a pas si longtemps, on était à 20 à 25 milliards d'excédents.
Non, j'ai pas dit le contraire,
Et donc, je pense que c'est un point qu'on ne souligne pas assez. C'est, pour le coup, la dégradation de la compétitivité de notre secteur des services, notamment logistiques, etc., qui sont des secteurs vitaux pour la compétitivité de tout le tissu économique et notamment des industriels.
Philippe Dornano, co-président du Métis.
Moi, je voudrais réagir quand même sur les PME et l'exportation.
Oui.
L'export, ça coûte cher. Il faut, comme ça a été dit, avoir les savoir-faire. C'est dangereux pour une entreprise, dans le premier temps, et j'en parle d'expérience, de son développement, d'aller à l'export. Nous avons passé, si ce n'est 10 ans, à nous concentrer sur le marché français, à établir notre marque, à être certain que nos produits soient compétitifs. Et c'est seulement quand on a pu s'établir, et donc dans une situation où il fallait être concurrentiel, qu'on a commencé à aborder l'exportation et qu'on a commencé à y travailler. Aller à l'exportation, ça demande aussi une autre qualité qui est importante, qui est le sens du long terme. Si vous voulez vraiment construire une marque à l'exportation, il faut la construire dans le temps, être prêt à dépenser de l'argent, être prêt à investir parfois. Il nous est arrivé d'investir et de perdre de l'argent pendant 15 ans sur un marché avant d'arriver à le rentabiliser et devenir l'une des marques principales de ce marché. Cette idée du long terme, de la construction du long terme, qui est assez aussi lié à l'histoire du développement des ETI.
Avec une structure familiale, patrimoniale, évidemment.
Oui,
on prend son temps.
Mais au-delà même de la famille, l'idée de construire en France, on a en France beaucoup mis en avant, et c'est normal, les start-up, l'innovation, mais on n'a pas suffisamment mis en avant l'idée d'une économie de bâtisseurs, une économie de gens qui travaillent dans le temps long, qui ont une ambition de construire une marque, de prendre une position mondiale. Et cette idée de bâtisseurs, de construction, c'est la clé aussi de l'exportation. C'est ça qui va permettre de faire comme en Allemagne. Le capitalisme allemand, c'est ça.
C'est ce que j'allais vous demander, Philippe Dornano. Quand on voit donc les 250 milliards d'euros d'excédent donc dans le commerce extérieur allemand, c'est vrai qu'on nous parle souvent du fameux Mittelstand, ces grosses PME exportatrices très implantées dans les Länder. La part du Mittelstand dans les exportations, elle est de 70%.
Oui.
Quand en France, les ETI en apportent 34%, les PME 15%, c'est-à-dire 50% au total. C'est quoi les recettes à prendre là-bas, Philippe Dornano? C'est quoi ce modèle allemand, cette puissance qui est là pour exporter ces entreprises à la taille du monde, quelque part, capables d'investir, d'affronter les chocs?
Ces grandes entreprises du Mittelstand, c'est d'abord des entreprises qui se sont donné le temps de se développer.
Voilà.
C'est des entreprises qui étaient passionnées par leurs produits, qui étaient souvent assez spécialisées d'ailleurs, qui dans un
200,
domaine
300, 400 ans, voire plus.
Mais surtout qui se sont donné le temps de se développer, parce que pour aller à l'export, il faut se donner le temps. On peut bricoler à l'export, mais on se développera pas réellement. Nous avons, par exemple, quand on a développé Sisley, créé 30 filiales de distribution. C'est-à-dire, on est aujourd'hui présent dans 30 pays et on contrôle notre distribution. Si on l'avait pas fait, on ne saurait pas ce qu'on est aujourd'hui. Mais ça nous a coûté beaucoup d'argent. On revient au sujet de la compétitivité. Mais aussi, c'était parce que notre idée, c'était une idée de construire une entreprise pour en faire une grande marque. C'est pas une idée de faire rapidement une entreprise, une belle start-up pour la vendre à un grand groupe. On voulait construire cette entreprise, on avait cette ambition. Et cette ambition, quel que soit le secteur d'activité, Il faut encourager ce type d'ambition. C'est ce que la France n'a pas fait pendant une période de temps et elle le paye aujourd'hui. Elle le paye par un trop faible nombre de ses entreprises.
Et ce que vous dites dans le rapport de l'Institut Montaigne, et souvent les pouvoirs publics sont coupables, parce que c'est vrai qu'on va mettre en avant les PME, les petites entreprises locales, les grands groupes également, où le président va partir avec des grosses entreprises. Et souvent, entre les deux, les ETI sont un petit peu laissés pour compte.
Comme vous le savez, on a été à l'initiative de cette catégorie ETI en 2008.
Je pense
qu'elle est très utile, mais surtout les gens ne connaissaient pas ce sujet. Je pense que c'était pas vraiment ni une mauvaise volonté, ce sujet du Mittelstand que les Allemands ont pris à bras le corps. Nous, on n'avait pas véritablement de notion qui le recouvrait jusqu'à la création de cette catégorie.
Allez, un mot à Alain Patachek, puis on reviendra justement, parce que c'est vrai, comme le disait Philippe Dornano, il faut se donner le temps, il faut se donner aussi les moyens, il faut de l'argent également, il faut des structures aussi pour permettre à ces entreprises d'exporter. On y reviendra. Allez-y, un mot, Alain Patachek.
Oui, effectivement, moi je dirige une entreprise aussi qui est une ETI dans un secteur complètement différent.
Citez-la.
Ça s'appelle Artelia et c'est de l'ingénierie de la construction, disons, donc complètement différente. Mais c'est vrai que là aussi, c'est exactement le même exemple dans un monde complètement différent où pour se développer à l'international, il nous a fallu investir beaucoup et jouer le long terme plutôt que le court terme. Sinon, effectivement, il aurait été probablement plus confortable de se replier uniquement sur le marché français. Donc ça suppose que pour tout entrepreneur, la capacité de tenir, donc il faut quand même une surface financière suffisante pour aller à l'export, et puis une volonté de long terme, de développement à long terme. Je crois que ça, effectivement, c'est très important.
Bon, le commerce extérieur, est-ce le mal français? Oui, puis on essaiera de voir justement dans un instant comment remonter la pente. On entendait tout à l'heure le Premier ministre qui nous annonçait un certain nombre de mesures qui seront révélées le 23 février. On verra quelles seront les mesures essentielles sur lesquelles il ne doit pas faire l'impasse. A tout de suite avec les décodeurs de l'écho sur BFM Business.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Bon, c'est un mal français, le commerce extérieur qui creuse encore son déficit en 2017, chiffre révélé par les douanes aujourd'hui, 62 milliards d'euros versus l'Allemagne qui affiche 250 milliards d'excédent, elle, justement. Oui, alors bon, on va voir dans un instant comment remonter la pente, parce que ça pèse quand même 0,3 points, nous disait Julien Marcy, chef économiste de Coface, dans la croissance française. Chaque année, on aurait besoin de ces 0,3 points. Même si la croissance est au rendez-vous en France, mais on est quand même en dessous de la moyenne des pays de la zone euro, évidemment, pour 17 et puis pour 18, bien sûr. Les exportations, quand même, ce qu'on a dit, Julien Marcy, tout à l'heure, bon, tout n'est pas acheté, les exportations, elles ont augmenté de 4,5%. Progression bien meilleure qu'en 2016. On voit, on a un certain nombre de places fortes encore. Je citais de façon anecdotique la mode féminine. L'agroalimentaire, l'agriculture. Alors même si il y a eu des conditions météo qui ont pu peser sur les exportations de blé, malgré tout, est-ce que nos places fortes, celles qu'on a décrites tout à l'heure, l'aéronautique, l'alimentaire, les vins spiritueux, etc., est-ce que quelque part, notre périmètre n'est pas en train de se restreindre aussi? Est-ce qu'on a toujours autant de places fortes qu'autrefois?
Non, tout à fait. On en a de moins en moins. Vous citiez les biens agricoles. C'est pas seulement lié à la dégradation sur ce secteur à de mauvaises récoltes. Quand vous regardez en détail la variation du solde, on exporte de moins en moins, notamment en Afrique du Nord, vers des pays comme l'Algérie et l'Égypte. Un, parce que la situation économique y a été mauvaise là-bas, et deux, on le dit pas assez, parce que on se prend de plein fouet la concurrence, notamment des entreprises russes sur ces marchés-là.
Merci l'embargo au passage.
Exactement. Donc de moins en moins de places fortes, il nous en reste quand même. Ça, c'était pour les biens agricoles. Les industries alimentaires restent en excédent. La pharmacie, bien sûr. L'aéronautique, même si le solde est un peu moins excédentaire.
On n'est pas trop dépendant de l'Airbus, parfois.
Tout à fait. Et la chimie, en incluant tous les produits cosmétiques dedans, on reste avec un bel excédent.
Alain Bentajac, président des conseillers du commerce extérieur de la France.
Oui, non, je crois que le problème, effectivement, c'est qu'on a des points forts très importants, mais on a trop peu de points forts.
Eh oui.
Et donc, ce qu'il faudrait, c'est élargir cette base de manière à pouvoir, effectivement, avoir un appareil exportateur beaucoup plus développé. C'est vraiment... Et là, on retombe sur des questions de politique industrielle, de politique économique globale, et c'est sur quoi il faut vraiment s'atteler aujourd'hui.
On va
la difficulté, en fait...
Emmanuel Lechypre.
La vraie difficulté, c'est que je ne sais pas ce que va proposer de génial Édouard Philippe, qui n'a pas déjà été proposé, si ce n'est changer pour la 12e fois le nom de ce qui s'appelle aujourd'hui Business France. Et qui s'est appelé au fil des années UbiFrance, etc. La réalité, c'est que c'est très...
C'est vrai, vous avez raison. Parmi les mesures envisagées, on pourrait regrouper les acteurs de l'exportation.
Oui. Faisons de la tuyauterie.
Business France, les chambres de commerce et d'industrie, dans des guichets uniques placés au sein des régions. Bon, alors, je ne sais pas si c'est bien mal, mais bon.
On verra, non. Bon, ce que je veux dire,
ça ne peut pas être mal.
Ça peut pas être mal de dire
c'est qu'en fait, et notamment par rapport à cette idée de priorité sur faire grossir, vous n'avez pas une seule explication. C'est ça qui est compliqué, c'est que vous avez tout un spectre d'explications qui sont effectivement tout ce qu'on a dit sur le capital, sur le financement qui est très important, ce qu'on a dit sur tout le monde connaît les problématiques liées aux effets de seuil, tout le monde les connaît les problématiques liées à l'instabilité réglementaire, juridique, fiscale. C'est plus compliqué à évoquer, mais il faut quand même parler de l'état d'esprit des patrons français. Il y a un vrai problème de compétences des patrons français qui sont la plupart du temps des gens qui ont monté leur boîte, qui sont d'excellents techniciens sur leur sujet, mais qui sont pas pour autant forcément des très bons dirigeants d'entreprise. Donc il y a énormément de sujets à adresser. Et c'est ça qui fait que c'est effectivement très compliqué, sachant que la meilleure solution, ce serait peut-être quand même de laisser la liberté, plus de liberté, et de déverrouiller un peu tout ça.
Valérie Attia, directrice générale d'Elysphère, donc justement qui aide vos clients à prospecter, à maîtriser leurs risques, notamment. Qu'est-ce qui manque souvent à une PME pour se développer, en France comme à l'étranger, pour exporter justement? C'est quoi? C'est la compétence dont parlait Emmanuel Le Chip, ce sont les bons contacts, c'est une expérience, une expertise linguistique. Est-ce que c'est toujours clair pour une entreprise qui veut exporter de savoir, eh bien, à quel guichet taper? Alors,
non, je crois justement, il y a beaucoup effectivement d'aides qui ont été apportées, qui sont apportées, mais c'est très c'est très éclaté. Les aides à l'export, le fait, quand vous disiez effectivement, quand on investit, ça prend du temps pour bâtir réellement une stratégie export gagnante, et parfois on prend un risque aussi. Donc un patron d'entreprise qui veut exporter peut être amené à monter un partenariat avec un distributeur, à monter une usine à l'export. Ça, c'est déjà quelque chose de plus... c'est déjà à l'étape suivante.
Bien sûr.
Mais déjà, trouver un agent qui permette de distribuer ses produits, alors soit effectivement des produits grand public ou des produits directement pour les industries, c'est un véritable travail. Où est-ce qu'on trouve le bon agent? Est-ce que l'entreprise à laquelle je vais confier mon développement export est une entreprise à laquelle je peux me fier?
Sérieuse, bien sûr.
Qui est-elle? Est-elle sérieuse? Donc toutes les entreprises, indépendamment, j'allais dire, de l'envie, parce que je pense que beaucoup en ont envie, des moyens d'accompagnement localement qui existent avec tous les dispositifs que le gouvernement a mis en place, qu'on peut regrouper, je suis d'accord avec vous, il y en a
des régions comme Rhône-Alpes, il y a des subventions.
C'est très difficile de s'y retrouver. C'est extrêmement difficile de s'y retrouver. Mais quand on aura réglé l'envie, que je pense existe, les dispositifs d'accompagnement, je crois qu'on peut les regrouper, il reste à qui je peux faire confiance. Ouais. Comment j'y vais? Dans quel pays? Dans quel pays déjà? Donc c'est des études. À quel endroit est-ce que je peux vendre mes produits? Alors c'est pas, encore une fois, les produits grand public sont des études de marché. Mais si je fabrique des machines-outils, si je fabrique quelque chose de particulier, qui sont des bouteilles d'une forme particulière que j'ai développée en France pour, je ne sais pas, la grande distribution ou des restaurants très très branchés, où est-ce que je vais aller? Dans quel pays? Et puis une fois que j'ai décidé dans quel pays, avec qui je peux le faire? À qui je peux faire confiance? Et les partenaires de confiance à l'export, c'est quelque chose, moi j'ai trouvé, en fait, quand on en parle avec nos clients qui nous achètent de l'information pour être certains d'exporter, c'est quelque chose qui les rassure. Ça enlève une épine du pied de savoir que l'entreprise avec qui on va faire un deal, un partenaire,
vaut le coup.
On peut, ça vaut le coup, que ce soit un partenaire d'une distribution ou un fournisseur.
Philippe Dornano est avec nous, co-président du mouvement des entreprises de taille intermédiaire à la tête de Sisley. Je regardais, la grande majorité des entreprises de l'industrie agroalimentaire en France n'ont même pas de cellule export organisée. Mais beaucoup hésitent à se lancer. Risque financier, risque, manque de confiance ou inconnu sur un éventuel partenaire, comme le disait Valérie Attia. Philippe Dornano.
Moi, pour vous donner notre expérience, on n'a pas besoin d'un accompagnement à l'export. Ou alors il est relativement limité, ça peut varier d'un secteur à l'autre, mais il est limité. On n'a pas bénéficié de subventions ou d'aides pour aller à l'export. On a par contre besoin effectivement d'avoir des bons conseils sur les gens avec qui on va travailler, et ça c'est nous qui nous adressons à ce moment-là et qui cherchons les sociétés qui vont nous les donner. Par contre, C'est vrai qu'on a besoin, comme on l'a dit, de temps. Moi, je suis moins sévère sur les premières mesures du gouvernement. La suppression de l'ISF sur les parts d'entreprise, par exemple, oui. a un véritable impact. Oh, et c'est oui. une décision courageuse, pas forcément populaire. Elle permet de renforcer les noyaux durs et de gagner ce temps long dont on a besoin. On sait que c'était un des facteurs qui provoquait les ventes d'entreprises. Il y a des signaux qui sont positifs. Il y a par contre un énorme écart. Et c'est cet énorme écart auquel il faut s'attaquer aujourd'hui.
Alain Batajac.
Oui, je crois que, en fait, il n'y a pas de solution miracle, malheureusement, pour le commerce extérieur. Comme il y a beaucoup de causes, il faut vraiment travailler sur les différents domaines. La compétitivité prix, la compétitivité hors prix, les mesures fiscales, les mesures pour encourager le capital. Donc je crois que c'est vraiment un ensemble de facteurs. Il faut travailler sur tous les facteurs. Il y a des facteurs généraux qui ont été évoqués, puis il y a des facteurs spécifiques au commerce extérieur, ce qu'on appelle les outils, les organismes qui ont été mis en place pour essayer d'aider les entreprises à se développer. Là, je crois que aussi, on verra ce qu'annonce effectivement le Premier ministre dans quelques jours, je pense que tout ce qui va dans le sens de la simplification va dans le bon sens. Parce que quand on interroge les entreprises sur ce sujet, c'est extrêmement clair. Je l'ai fait il y a quelques années, elles ne demandent pas plus d'aide, elles ne demandent pas un financement complémentaire ou une aide supplémentaire. Ce qu'elles veulent, c'est un système clair et lisible et simple.
Il l'a promis encore, Édouard Philippe,
simplicité. Voilà. J'espère que ça sera réellement fait. Ce n'est pas le premier qui le promet.
Et la réalité, c'est qu'au fil des années, voilà. La complexité est croissante.
Non, alors je ne crois pas. Non. Je crois que ça s'est quand même un petit peu amélioré.
Vous avez tous les
3 ans, mais il y a encore beaucoup à faire.
Mettez tout bout à bout, toutes les réglementations et toutes les exigences, toutes les nouvelles exigences autour de la transparence. Regardez les problèmes que pose la loi Sapin 2.
Ah oui, des problèmes considérables. On estime qu'à peu près, ça va coûter à peu près pour une ETI entre 150 et 200 000 euros. À mettre en perspective avec la baisse de l'IS qui est de 25 000 euros pour une ETI, et ça va supposer d'avoir 2 à 3 équivalents temps plein. Quel est l'intérêt, quand on parle de simplification, quel est l'intérêt, par exemple, et l'utilité pour l'État de connaître que l'actionnaire final d'un client d'une affaire de cosmétiques au Brésil, ça n'a aucun intérêt, mais comme le périmètre est très mal défini, ça va obliger les entreprises, et que les sanctions sont très lourdes, pénales, et touchent directement le dirigeant, ça va obliger les entreprises à faire ces investissements qui n'apportent absolument rien à la productivité.
Le seuil des entreprises que ça concerne aujourd'hui est extrêmement bas. Mais ça va être sans doute, c'est un scoop que je vous donne.
Allez-y, Emmanuel.
Le seuil va être relevé, a priori. Je crois que c'est 100 millions d'euros aujourd'hui.
Oui. Et 250 personnes.
Ce seuil va être sans doute relevé parce que je crois qu'à Bercy, on s'est quand même aperçu que c'était un seuil un petit peu trop bas et que ces exigences étaient beaucoup trop importantes pour des petites entreprises de cette taille-là.
Dans les mesures à prendre, tiens, juste encore un mot, Philippe Dornano, co-président du Métis, parmi les propositions de votre rapport réalisé par l'Institut Montaigne, justement, sur lequel on reviendra dans le défi ETI, notamment avec Arnaud Vessier ce week-end sur BFM Business, donner plus de poids aux régions. Elles ont une compétence économique désormais, ces grosses régions françaises. Est-ce que c'est l'avenir aussi de confier un petit peu plus de poids aux régions vis-à-vis des ETI et notamment dans les relations à l'export?
Alors, dans les relations à l'export, je ne sais pas si le sujet qui nous intéresse, c'est l'apprentissage. Ce sujet-là, les régions ont un rôle à jouer. Nous, on pense qu'il doit y avoir une proximité et une bonne gouvernance sur ces sujets. Par contre, il y a un véritable sujet sur lequel l'État et les régions et les régions vont devoir s'interroger, c'est les taxes de production, parce que ça les concerne.
Ces taxes
de production qui détruisent le made in France. Pensez que les taxes de production sont 7 fois plus élevées en France qu'en Allemagne.
60 milliards par an.
C'est
alors qu'il n'y a encore même pas le moindre euro de bénéfice.
C'est pour vous donner un exemple. J'avais fait l'exercice de consolider sur mon usine de Blois, donc nous fabriquons en France tout l'ensemble de notre production. J'avais fait l'exercice de consolider les taxes de production et l'IS pour voir quelle était la taxation réelle. La taxation d'une usine française de cosmétiques, c'est 65% des bénéfices. Et là, vous avez forcément, et c'est pas ni le cas en Allemagne, ni le cas en Angleterre, ni le cas en Italie. C'est dramatique parce que ça génère depuis maintenant une quinzaine d'années une destruction à bas bruit de l'ensemble de notre industrie, de nos savoir-faire. Ça crée ce chômage endémique qu'on n'arrive pas à résorber. Et ça provoque ces difficultés à l'exportation.
Il y a un mot, puisqu'on a parlé de la compétitivité des coûts, en effet, c'est l'une des composantes. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé encore, c'est la question de l'image aussi des entreprises françaises, les produits, hein, on parle toujours de la qualité, le Made in Germany, les machines-outils, etc. Il y a un déficit d'image aussi, hein, Alain Patajac, du matériel français, de la qualité française.
Alors, je pense qu'il ne faut pas généraliser dans ce domaine. Ça dépend vraiment des secteurs, dans le luxe, dans l'aéronautique, dans la défense. L'image des produits français est excellente. Mais dans beaucoup de secteurs...
Mais souffre-t-on de la compétitivité hors prix, voilà.
Voilà. Dans beaucoup d'autres secteurs, l'image est moins bonne. Et donc, à ce moment-là, ça ne fait que renforcer la nécessité d'être compétitif en termes de prix. Puisque si votre réputation, à tort ou à raison, de votre produit... n'est pas aussi bonne que, par exemple, le produit allemand, c'est pas au même prix que le produit allemand que devait être, c'est 15 ou 20% moins cher. Et donc c'est cette combinaison entre compétitivité prix et compétitivité hors coût qui doit être recherchée en permanence et sur lesquelles il faut qu'on travaille encore beaucoup.
Bon, un mot pour finir, 2018, est-ce qu'on va se débarrasser ou pas de ce mal français qu'est le commerce extérieur? Allez, Alain Patajac.
Je ne crois pas qu'on se débarrassera du déficit du commerce extérieur. Non, certainement pas, mais ce qu'on peut espérer, c'est que les exportations vont continuer sur leur lancée. Plus 5% pratiquement en 2017, c'est très bien. Il faut poursuivre cette tendance-là.
Julien, merci.
Non, mais quand même quelques bonnes nouvelles. Une, c'est que certaines mesures vont porter leurs fruits. On parlait du CICE qui a permis aux entreprises de restaurer leurs marges. Grâce à ça, elles ont moins fait défaillance. Maintenant, les marges dans l'industrie sont au plus haut depuis avant crise. Donc, on peut penser qu'en 2018, elles vont en profiter pour baisser un peu leurs prix à l'export et gagner en compétitivité prix.
Emmanuel, le chiffre.
Moi, je pense que si au bout du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, si tant est qu'il y en ait un deuxième, on a des résultats significatifs sur notre coût du travail, nos parts de marché, etc. Déjà 5 ans pour redresser là-bas, eh ben, ce sera déjà pas mal parce que on est sur des sujets qui sont quand même très très longs, beaucoup d'inertie.
Valérie Attiard.
Écoutez, si je pouvais, avec la force de toutes les informations qu'on donne aux entreprises, les aider à exporter mieux, vraiment, j'y mettrais, et nous y mettons beaucoup d'énergie, mais je pense qu'on n'est pas les seuls, malheureusement.
Bon, on peut vaincre ce mal français.
Exactement.
Voilà. Ok, allez, Philippe Dornano.
Je pense que c'est un scandale qu'on ne soit pas fortement exportateur. Il n'y a aucune fatalité à ce qu'on soit exportateur, mais que ça suppose simplement une véritable prise de conscience collective et des actions résolues.
Merci à tous. Et le défi ETI, il reprend donc ce week-end sur BFM Business, samedi, dimanche, à la radio, à la télé. Soyez évidemment au rendez-vous. Merci Alain Patajac, président des conseillers du commerce extérieur de la France. Julien Marcy, chef économiste de l'assureur crédit Coface. Emmanuel Lechypre, éditorialiste économique à BFM Business. Valérie Attia, directrice générale d'Elisphère. Et Philippe Dornano, à la tête de Sisley, co-président du Méti. Les décodeurs de l'écho qui reviennent très très vite.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.
AI may be the most important new computer technology ever, but AI needs a lot of processing speed, and that gets expensive fast. Upgrade to the next generation of the cloud, Oracle Cloud Infrastructure, or OCI. OCI is the single platform for your infrastructure, database, application development, and AI needs. Do more and spend less, like Uber, 8x8, and Databricks Mosaic. Take a free test drive of OCI at oracle.com/insightful. Oracle.com/insightful.